auditeurs, citoyens, je l'espère, qui nous écoutez en ce moment même, les élèves de la classe des 4e C du collège des 7 épis à Saint-André-de-l'Eure vous souhaitent bien le bonjour. Nous espérons que vous allez pour le mieux. En tout cas, nous, on a un peu le trac, mais tout va bien. Nous sommes très contents de vous retrouver ce matin à la radio, et si c'est réciproque, nous en sommes que plus heureux. Si on est là aujourd'hui, c'est pour parler de la citoyenneté. Plusieurs groupes vont passer et vous présenter leur sujet dans la plus grande des joies qui soit. On vous réserve aussi une petite surprise à la fin, ne la loupez pas.
Principe actif.
Pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape?
Dans le sud de l'Eure, 95.9. À Évreux, 102.4. Et partout ailleurs, sur principeactif.net.
Donc bonjour, nous sommes Johan et Olivia, donc du collège des Épis. On va vous parler de la démocratie. Ok, donc pour vous, JC, qu'est-ce que la démocratie?
Là, vous me collez, en fait. Je sais pas, ça devrait être un système pour vivre tous ensemble, non?
Bah, on va répondre à ce que vous dites avec un micro-trottoir et des explications de différentes personnes.
Bonjour, selon toi, qu'est-ce que la démocratie?
C'est un régime politique où les gens ils votent pour une personne et ils peuvent élire la personne de leur choix.
La démocratie, c'est un régime politique dans lequel on est libre. La démocratie, c'est un régime politique où on a des droits.
La liberté d'expression, la liberté de plein de choses.
La démocratie, c'est que tout le monde a le droit de voter pour qu'il y ait de l'égalité.
La démocratie, c'est les droits de vote et l'égalité pour tous.
La démocratie, c'est le droit de vote de tout le monde, l'égalité.
La démocratie, c'est le droit de pouvoir choisir ce que l'on veut.
La démocratie, c'est la liberté de choisir ce pour qui on a envie de voter et ce pourquoi on a envie de faire des choses.
Qu'est-ce qui te pousserait à t'engager dans ta commune?
Ce qui me pousserait à m'engager dans ma commune, c'est pour pouvoir être présent dans la commune. Pour être présent dans la commune, pour pouvoir faire des activités.
Ouais. Pour faire des améliorations et voir les améliorations.
Justement, la démocratie et la liberté d'expression.
Pour que tout le monde soit égaux.
Le soutien aux personnes âgées ou alors le soutien aux jeunes.
La confiance politique. Je pense que si j'avais confiance en au pouvoir politique, j'aurais moins de mal à m'engager dans ma commune.
Troisième question, qu'est-ce que vous voudriez changer dans votre commune?
Avoir une boulangerie.
Qu'il y ait plus d'activités.
Faire plus d'améliorations pour les jeunes.
J'aimerais bien des clubs de foot, qu'il y ait un peu plus d'activités pour le foot. Voilà quoi.
Le foot, pour qu'il y ait plus de terrains et d'endroits pour qu'on puisse en faire.
Je pense qu'il manque beaucoup de choses dans ma commune, parce qu'elle est toute petite, il n'y a vraiment pas grand-chose. Du coup, peut-être avoir effectivement à proximité au moins une petite supérette, les premières nécessités qui pourraient être une bonne chose.
Maintenant, on va vous montrer le rôle et le point de vue sur la démocratie d'un conseiller de la mairie de Saint-André-de-l'Eure.
Donc, on va vous présenter le portrait d'Adrien Chapeau. Il a 28 ans, il est conseiller municipal à la mairie de Saint-André-de-l'Eure depuis mars 2019. Donc, ce n'est pas son métier à plein temps, c'est plus un rôle. En dehors de la mairie, il est assistant d'éducation. Donc, et à la mairie, il est adjoint aux maires et aux associations, à la communication et à l'information, ainsi qu'à l'administration de l'aérodrome de Saint-André-de-l'Eure, qui est une nouvelle mission pour lui. Il s'occupe des relations avec les associations, par exemple les clubs de sport ou les associations du social. Pour la communication, il a créé la page Facebook de la mairie et la gère au quotidien. Adrien a voulu être conseiller municipal car son grand-père l'était aussi et il a découvert le métier quand il aidait son grand-père pendant les vacances. Adrien a fait le choix d'être conseiller municipal pour aider les Andrésiens, aider la commune à s'enrichir et à se développer.
À Saint-André-de-l'Eure, il y a 26 conseillers municipaux. À la mairie, plus le maire, cela fait 27. Pour Adrien, la politique à l'échelle locale est moins présente qu'à l'échelle nationale, mais elle est présente quand même. Selon lui, le but est de répondre aux attentes des Andrésiens et d'être proche d'eux. La politique locale, c'est prendre des décisions pour le bon fonctionnement de sa commune, et c'est aussi un moyen d'expression. Ce que Adrien souhaiterait pour l'avenir de Saint-André, de l'Eure, est de construire plus d'écoles, rendre attractive la commune et permettre de faire découvrir aux gens un lien où il fait bon vivre avec une multitude de services. Et vu que nous sommes que de passage, Il ne faut pas s'approprier les choses, mais d'exploiter tout leur potentiel afin de nourrir de nouveaux projets pour satisfaire les Andrésiens.
Ok, voilà le portrait d'Adrien Chapeau. Donc, et de ce qu'il en pense.
On va continuer avec le point de vue du maire. On va accueillir Monsieur Franck Bernard, qui est maire de Saint-André-de-l'Eure. Bonjour Monsieur Franck Bernard.
Bonjour à toutes et tous, et je suis à votre écoute.
Donc on va vous poser quelques questions concernant votre rôle dans la commune de Saint-André-de-l'Eure, ainsi que ce que vous faites. Donc la première question, c'est à quoi sert un maire dans une commune ?
Donc le maire, dans une commune, il est chargé de l'état civil, du recensement de la population, de l'organisation des élections et de la publication et de l'exécution des lois aussi. Il doit aussi garantir la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.
Ok, donc on va passer à la deuxième question. Comment se passe l'élection de maire ?
Les élections, c'est tout simple, si je peux me permettre de le dire. Les conseillers municipaux sont élus pour un mandat de 6 ans. Au suffrage universel, direct par les Andrésiens, donc les électeurs. Et le maire, il est élu par ses conseillers. Et aussi les adjoints, ils sont élus aussi par les conseillers municipaux.
Troisième question. Pourquoi voulez-vous être maire ? Aviez-vous déjà travaillé dans la mairie avant ?
Alors maire, ce n'était pas une volonté de ma part. C'est mon deuxième mandat. Mon premier mandat, je suis rentré comme conseiller municipal. Éventuellement, mon père était déjà conseiller municipal pendant 2-3 mandats. Et j'ai dit, tiens, pourquoi pas, je vais prendre ta place, entre guillemets, mais il fallait bien sûr être élu. Hein. Et j'ai été élu. Donc, ça m'a donné l'envie de donner mon savoir-faire et être à la population de Saint-André. Et comme les propos d'Adrien, de porter cette commune avec un peu plus d'attractivité de ce qu'on a aujourd'hui, de la rendre pour la jeunesse, pour les seniors aussi. Donc la volonté est venue comme ça. Et dans la fin du mandat précédent, on a eu un tragique événement. Donc je ne vais pas citer, mais bon, si, je vais le dire quand même. L'ancien maire est parti et est décédé. Il a fallu le remplacer et parmi tous les élus de la majorité, il fallait trouver un leader. Et ils sont tous retournés vers moi et j'ai pris pour les 9 mois qui restaient à être élu, à être le maire de la commune. Et pendant ces 9 mois, ça m'a donné envie. J'ai dit, il y a beaucoup de choses à faire à Saint-André. Avec une équipe, on va reconstruire Saint-André, on va essayer de la mieux faire vivre pour les jeunes et pour les seniors, comme disait Adrien. Donc, ma volonté, voilà, c'est ça, ça a été inné, quoi.
Quatrième question, qu'est-ce que le métier de maire pour vous ?
Les métiers de maire, la fonction d'un maire, c'est le maire, il bénéficie d'une double casquette. Il agit au nom de la commune en tant que collectivité territoriale, mais il agit aussi au nom de l'État. Dans certaines fonctions administratives et judiciaires.
Cinquième question. Quel est le lien entre la mairie et la communauté d'agglomération ?
Selon les compétences, la mairie a certaines compétences, il est maître de sa commune, mais pour avoir mieux de subventions et autres, l'EPN, Évreux-Port de Normandie, a pris des compétences qui vont nous aider à construire des routes, à construire des crèches, à construire une déchetterie, tout ça. Nous, Saint-André, nous-mêmes, on n'aurait pas pu le faire. Donc, grâce à l'EPN, Évreux-Port de Normandie, donc la collectivité territoriale, on va pouvoir se permettre de construire des choses plus importantes.
Sixième et dernière question. Est-ce que être maire est un métier ou un rôle ?
Alors, maire, un rôle, oui, pour ses administrés. Il doit être présent. Il doit être à l'écoute de ses administrés, comme on disait tout à l'heure, la démocratie. Il doit entendre les choses mauvaises ou autres, quoi. Il doit l'entendre, il doit l'enregistrer et afin d'aller au mieux pour ses administrés, essayer de faire au mieux, quoi. Et je me répète, mais un rôle, oui. mais c'est un métier aussi. Moi, pour ma part, pour une ville de plus de 4000 habitants, j'ai cessé mon activité. J'ai pris une disponibilité de 6 ans pour me consacrer directement à ma ville. Donc tous les jours, je suis à ma ville, je suis dans les réunions, parce que pour chercher des subventions et autres, il faut aller dans toutes les réunions. Si on n'est pas dans une réunion, c'est comme un train. Un train, il passe dans les gares. Si on n'est pas à l'arrêt du car, à l'arrêt du train, on loupe le train et on loupe plein de subventions. Donc c'est pour ça que je me suis permis de prendre une disponibilité et de travailler à 100% pour ma commune.
Ok, on vous remercie. J'ai tout d'abord aussi une petite dernière question pour vous. On va revenir comme au début. Pour vous, qu'est-ce que la démocratie, de votre point de vue et
La démocratie, c'est d'être à l'écoute de tous les administrés. C'est d'aller les voir. Ils envoient un mail, ils viennent en mairie à l'accueil, ils ont un problème. Que ce soit moi ou mes adjoints ou mes conseillers, on va les rencontrer. On leur demande la question, on leur demande qu'est-ce qui se passe, quelle est la problématique, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. On enregistre la problématique et on essaye de faire au mieux pour que cette problématique ne soit plus existante. Et pour les jeunes, justement, on est à l'écoute des jeunes. On va leur faire un deuxième City Park, par exemple, parce qu'on sait qu'il y en a qu'un à Saint-André et qu'un deuxième, ça serait plus valorisant pour vous. Et demain, on va encore faire des réunions de quartier, de jeunes et tout ça.
D'accord, bon, on va clôturer sur ça. On vous remercie pour ces réponses et d'être venu. Donc, on va accueillir le prochain groupe donc, qui est composé de Melvin, Tiffen et Chloé qui vont traiter du sujet de la maltraitance des enfants.
Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la maltraitance des enfants. Nous avons interviewé des adultes et des enfants afin d'avoir deux points de vue différents.
Selon vous, à quel moment commence la maltraitance des enfants ?
À partir du moment où ils sont tapés. La maltraitance, ça commence à un moment où l'enfant se sent mal, qu'il est négligé, qu'on ne prend pas soin de lui et qu'en plus il est maltraité. Bah oui, forcément, parce que c'est la maltraitance.
Selon moi, la maltraitance des enfants. Alors déjà, qu'appelez-vous maltraitance ? Il y a plusieurs sortes de maltraitance.
Physique et morale.
Alors la maltraitance physique, ça peut être des coups bien sûr portés sur un enfant, mais pas que. On peut parler de chamaillerie. Cela peut être déjà très violent pour un enfant. Et puis en ce qui concerne de la violence maltraitance verbale. Ça revient à tout ce qui est insultes, de la répétition.
Alors la maltraitance, c'est quand on tape quelqu'un, pour moi. Okay. Alors la maltraitance, c'est quand on se fait taper par quelqu'un.
C'est quand on néglige quelqu'un, qu'on l'insulte, qu'on le tape. Voilà.
Le non-respect de l'enfant.
La maltraitance physique, déjà, c'est frapper sur un enfant, c'est ça, on est bien d'accord. Donc la maltraitance physique, c'est ça, c'est le frapper. Et il y a aussi la maltraitance morale, où on le rabaisse et où on lui fait du mal moralement.
La maltraitance, c'est déjà ne pas respecter la personne qui est en face de soi. Ça peut être la maltraitance morale, la maltraitance physique.
Eh bien, la maltraitance, il y a différents types de maltraitance. Il y a la maltraitance psychologique, la maltraitance affective, la maltraitance physique. Il y a la maltraitance, elle se voit en fonction aussi de ce que peut dire l'enfant, l'adulte. Elle est compliquée à déceler par moment. Et puis, on la ressent pas tous de la même manière en fonction de qui on est.
La maltraitance, c'est quand on se fait battre. Enfin, ça dépend, par exemple, ça peut être un animal ou une personne humaine. Et quand on se fait maltraiter, du coup, on se fait battre. Et du coup, voilà.
Alors, la maltraitance, c'est un grand mot. Il y a plusieurs sortes de maltraitance. Il y a la maltraitance moralement, physiquement ou psychologiquement.
Pour moi, la maltraitance, c'est quand on frappe d'autres personnes, on nous prive de nourriture, de tout, enfin voilà.
La maltraitance, c'est un enfant qui vit mal, qui n'est pas bien dans sa peau et qui, à un moment donné, exprime un certain mal-être.
La maltraitance, pour moi, c'est quand quelqu'un il se fait frapper, enfin je sais pas.
Pour moi, la maltraitance, c'est le fait de ne pas prendre soin de quelqu'un. C'est être agressif, verbal, physique.
La maltraitance, c'est à partir du moment où on fait en sorte qu'une personne ne se sente pas bien ou ne se sente pas acceptée vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis des autres.
Aujourd'hui, nous accueillons Émilie Vallée et Nathalie Le Thor pour connaître leur point de vue sur les réponses de nos micro-trottoirs.
Bonjour Émilie Vallée, bonjour et Nathalie Le Thor.
Bonjour.
Vous qui êtes des professionnels dans ce domaine, qu'en pensez-vous?
Alors, on pense, qu'est-ce qu'on pense de quoi? De la maltraitance?
Oui, voilà.
D'accord. Donc là, moi, par rapport à ce qui a été dit dans le micro-trottoir, je valide en effet que la maltraitance, c'est le manque de soins apporté à un enfant, ce sont des négligences, donc c'est de la violence physique, morale, je suis d'accord. Et dans les violences physiques, quelque chose qui n'a pas été nommé, en fait, sont les maltraitances sexuelles et qui sont très importantes aussi, notamment sur les 0-6 ans.
Pour vous, qu'est-ce que la maltraitance?
Alors, je viens d'y répondre un petit peu, mais de toute façon, on va parler à ce moment-là plutôt des conséquences, ce qui a été aussi évoqué dans le micro-trottoir. C'est-à-dire que les maltraitances, à partir du moment où on néglige un enfant, où on le maltraite, c'est-à-dire qu'il est victime de violences physiques, morales ou sexuelles, les conséquences sur lui, en effet, vont être un mal-être, justement, physique, moral, et qui peuvent avoir en fait un impact sur sa vie en tant qu'individu et surtout sur sa vie sociale, ce qu'on oublie souvent de dire.
Que faites-vous avec votre association pour lutter contre la maltraitance?
Alors nous, l'association, donc on ne l'a pas nommée, en effet, c'est l'association La Cause des Enfants. La Cause des Enfants, c'est une association donc, qui a 35 ans et qui, en fait, intervient dans les établissements scolaires et nous faisons de la prévention des maltraitances sexuelles auprès des CM2. Et puis après, prévention donc, des violences du CE2 à la 5e, c'est-à-dire qu'on va aller poser des questions aux enfants sur ces sujets-là pour qu'ils nous donnent justement ce qu'ils connaissent et puis surtout qu'ils nous proposent des solutions pour éviter la violence.
D'accord. Pourquoi avez-vous créé cette association?
Cette association, elle a été créée par des professionnels de la protection de l'enfance. Donc, il y avait des médecins, pédiatres, des psychologues, psychiatres, éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux, enseignants. Et en fait, il y avait une non-réponse de l'État sur ces sujets de la maltraitance, notamment les maltraitances sexuelles. Et c'est pour ça que ces professionnels se sont réunis et ont créé l'association La Cause des Enfants pour pouvoir répondre et surtout oser parler de la maltraitance, parce que c'est souvent en effet des sujets tabous, un sujet c'est-à-dire qu'on n'évoque pas facilement, et nous notre volonté c'est de pouvoir en parler le plus possible pour que ça devienne un sujet qui soit plus facile à aborder et permettre aux victimes de pouvoir révéler des faits de maltraitance plus facilement.
Avez-vous eu affaire à un cas très violent par rapport à la maltraitance?
Alors nous, moi, ça fait 17 ans que je suis bénévole, puis après salariée à La Cause des Enfants. Oui, j'ai été amenée, en fait, à entendre la révélation d'enfants qui ont été maltraités. Et donc, j'ai eu plusieurs situations où, en effet, l'enfant était vraiment en danger.
Est-ce que la maltraitance, sans s'en rendre compte, est pardonnable pour vous?
Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Moi,
je pense
non.
Que oui.
Pour moi, oui.
Alors, pourquoi oui et pourquoi non?
Non, parce que à partir du moment où tu tapes quelqu'un ou que tu lui fais des remarques tous les jours, même si tu t'en rends pas compte, s'il te dit d'arrêter, ça peut devenir de la maltraitance, donc il s'en rend forcément compte à un moment.
D'accord. Et toi, pourquoi oui?
Je sais pas trop comment expliquer, mais parce que c'est sur les termes de ne pas s'en rendre compte, en fait. Je sais pas trop comment expliquer.
D'accord. Alors, de toute façon, non, c'est pas pardonnable puisque c'est interdit. C'est interdit par la loi. Donc, on a la chance d'être dans un pays où les enfants sont protégés contre toute forme de violence, quelle qu'elle soit. Donc, ça veut dire, vous voyez, c'est pas pardonnable puisque c'est interdit.
Comment réagirais-tu si un ami à toi était maltraité?
Je l'aiderai, très certainement, et j'en parlerai à des gens.
J'essaierai d'en parler à un adulte avec son consentement.
L'écouter, le soigner et aller porter plainte.
Je défendrai.
Difficilement, je pense, parce que j'aurai une mauvaise réaction. Je pense que je serai très pas contente du tout.
Moi, compte tenu du fait que je suis assistante sociale, en général, quand un enfant est maltraité, je le reçois. Enfin, en tout cas, s'il est soupçonné de maltraitance, je le reçois. Ensuite, on discute en fonction justement de ce qui est dit et de ce qui est travaillé en fonction des besoins de l'enfant aussi. On voit ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit rédiger un écrit parce que c'est de la maltraitance qui nécessite une urgence parce que ça met en danger la vie de l'enfant, ou est-ce que c'est une maltraitance psychologique qui dure sur le temps mais qui est difficile à admettre pour l'enfant, et dans ces cas-là on voit, on travaille sur le long terme pour mettre d'autres choses en place.
Ah, mais celui qui maltraite mon ami, je vous jure que ça va pas le faire du tout, parce que perso je défends beaucoup cette cause, et aussi j'aime pas du tout ça, je me fais pas de patte moi, mais si quelqu'un tape mon ami, je vous jure que ça va pas le faire.
Après ça dépend la situation quoi. C'est vrai que si ça commence à partir en bagarre, c'est vrai que je vais le défendre. Ou aller le dire à un surveillant.
Donc j'essaierai d'échanger avec la conseillère principale d'éducation, Madame Le Mercier, au collège, avec l'infirmière, pour essayer de voir qui peut rencontrer l'élève et essayer de le faire parler, pour essayer de savoir d'où vient son mal-être.
J'informerai des personnes, des adultes.
Je réagirai de la façon, je pense, responsable. Ce serait d'aller signaler aux personnes qu'il faut. Donc j'essaierai déjà de voir si c'est vrai ou pas et comment. Et après d'en parler déjà avec la personne maltraitée, si elle accepte pas d'en parler, d'aller parler avec les adultes, les parents, les responsables, voilà.
Je serais d'abord inquiet parce que je me dis que si l'élève est maltraité, c'est qu'il y a eu des causes extérieures, donc qu'il faudrait agir déjà sur ces causes et faire le bilan avec l'élève de tout ce qui s'est passé pour qu'on en amène à ces faits de maltraitance.
Pour vous, à quelle personne en parler dans cette situation ?
À quelle personne parler de maltraitance ?
Oui, voilà.
Ça dépend en fait où l'enfant se trouve. Puis ça dépend aussi où est-ce que, dans quel environnement en fait l'enfant est maltraité. Parce que ça, on ne l'a pas évoqué, mais un enfant, ça peut être. Quand on parle de maltraitance, on parle surtout en fait d'enfants qui vont être maltraités dans leur famille. C'est 94% des enfants maltraités qui le sont par quelqu'un qu'ils connaissent, c'est-à-dire leur famille ou quelqu'un de leur entourage proche. Donc vous voyez, c'est vraiment. Très important. Et c'est pour ça que pour l'enfant, si c'est quelqu'un de sa famille, est-ce qu'il va pouvoir en parler, si c'est son papa ou si c'est sa maman, est-ce qu'il va pouvoir en parler justement à ses parents, à votre avis ?
Je pense qu'il aura peur qu'il arrive quelque chose à ses parents.
Voilà. Donc ça veut dire qu'il va être obligé de trouver une personne ressource différente. Et c'est pour ça que les professionnels, par exemple, qui sont au collège, sont formés pour pouvoir entendre les révélations des enfants. Et que ce sont des personnes ressources très importantes pour ces enfants qui sont victimes. Mais moi, j'ai envie de vous poser une autre question.
Oui.
Est-ce que c'est facile de révéler une maltraitance ?
Non, parce que moi, je pense qu'on a honte. Un peu.
Ouais, souvent, on a peur du regard des gens quand on l'annonce à des personnes. Et puis, on a surtout peur que les autres en parlent à d'autres gens et que, après, ça revienne sur nous.
Très bien, c'est exactement ça. Le frein à la révélation en fait, d'un enfant qui est maltraité, c'est souvent en effet la honte, la peur, d'accord, et puis surtout en fait la culpabilité. Souvent les enfants, ils ont l'impression qu'ils ont fait une bêtise et que c'est de leur faute ce qui leur arrive. Et c'est pour ça que ça peut être compliqué pour lui de révéler. Donc oui, révéler à qui ? Donc à ces professionnels. Et puis surtout en France, on a aussi un numéro. Est-ce que
le 119
vous... Très bien, le 119. Ça, il faut le répéter. Qui sert en effet pour tous les enfants qui sont victimes de maltraitance, mais aussi pour les adultes qui pourraient constater des maltraitances sur un enfant, mais qui ne savent pas comment faire. Et ils ont le droit aussi d'appeler le 119 pour avoir des conseils. Parce que ce qui compte, c'est que de toute façon, quelqu'un le dise. Pour que cet enfant il soit protégé.
Oui.
Ça aussi, c'est une obligation légale.
Parlerais-tu dans cette situation ?
À des adultes en général.
À un adulte, l'assistante sociale, l'infirmière, les enseignants.
Un ami, un membre de la famille, un médecin, un psychologue, une assistante sociale, un gendarme, un policier.
Bah, si c'est un enfant, un adulte, ça peut être compliqué quand on est dans son entourage et qu'on a peur de le faire. Mais après, il y a toujours à l'école ou des parents, des copains des fois qui peuvent aider dans ces situations.
À des adultes, à des gens qui ont connaissance, à quelqu'un qui sait écouter pour pouvoir donner des conseils éventuellement.
Tous les adultes. Donc tous les adultes doivent être à même de pouvoir aider un enfant. Après, on n'a pas forcément la bonne personne au bon moment, donc il faut en discuter pour que l'adulte aille rapporter aux autorités. Donc il y a le 119 pour la maltraitance. Donc toute personne, tout citoyen, de pouvoir faire part de la maltraitance subie par, même quand on n'est pas sûr. S'il y a des doutes, on fait part de ce qu'on sait, de ce qu'on voit, de ce qui nous inquiète, et après, eh bien les personnes pourront faire le travail et vérifier ou pas, enfin vérifier en tout cas s'il y a ou non maltraitance et ce qui peut être travaillé autour de ça.
C'est très compliqué à dire. Les parents, c'est un peu compliqué parce qu'on a peut-être du mal. Après, si vous êtes dans un collège, un établissement, les adultes des fois peuvent pas beaucoup comprendre, mais ils peuvent comprendre, donc c'est difficile à parler, voilà.
Je pense personnellement pas que je vais plus en parler aux adultes, je vais plus en parler à des élèves avec qui j'ai une entière confiance.
Bah, une personne avec qui on a déjà entièrement confiance, une amie ou...
Donc la CPE, l'infirmière, ça peut être aussi le professeur principal pour essayer de que chacun puisse nous donner diverses informations sur le mal-être de l'enfant.
À des adultes ou à des responsables... d'un établissement, enfin, je sais pas.
C'est responsable légaux, donc les parents. Ça peut être aussi signalé à la police, ça peut être signalé à la principale du collège, la CPE, les surveillants, voilà, et même les profs.
Je pense que le mieux, c'est d'en parler aux adultes de l'établissement. Donc il y a les enseignants, mais il y a aussi la vie scolaire ou l'infirmière scolaire, l'assistante sociale qui peuvent aussi aider, et éventuellement aussi, tant qu'à faire, à la direction de l'établissement, donc notamment principale adjointe ou principale.
Si quelqu'un vient vous voir pour vous dire qu'il est maltraité, qu'est-ce qui s'en suivra pour la personne qui a maltraité un enfant ou quelque chose comme ça? La peine qu'il aura s'il finit au tribunal ou... Enfin, je sais pas comment expliquer.
Ah, quelles sont les peines encourues si on maltraite un enfant? Ça dépend en fait de la... En fait, ça dépend de ce qui a été fait. Ça dépend de ce qui a été fait à l'enfant. Mais vous voyez, ça dépend déjà de la violence qui a été commise. Et puis après, ça dépend aussi, et pour beaucoup, du statut de celui qui a maltraité l'enfant. Par exemple, si c'est des parents, c'est une circonstance aggravante. C'est-à-dire que le parent, il va être jugé beaucoup plus sévèrement que si c'est quelqu'un qui est complètement inconnu de la famille. Enfin, vous voyez, l'inconnu complet, donc voilà. Et puis après, en fonction de si c'est de la violence physique, ça dépend de ce qu'on appelle, mais c'est un peu de technique, et puis c'est le jargon juridique, c'est tout ce qui est, en fait, tout ce qui va empêcher, en fait, l'enfant d'avoir une vie normale. On appelle ça l'ITT, qui va avoir, en fait, une vie normale dans son quotidien, qui va être empêché de faire les choses, d'aller à l'école, de faire des activités, parce qu'il y aurait eu des blessures, par exemple, physiques très graves, qui peuvent le rendre infirme. Et bien là, vous allez avoir qu'une peine de prison et une amende, c'est toujours assorti d'une amende, qui vont être beaucoup plus importantes. Pour des violences, sexuelles, donc faites par un parent, c'est 20 ans de prison maximum, par exemple. D'accord ? Par contre, si un parent tue son enfant, c'est 30 ans de prison. C'est vraiment le maximum donné parce que... et puis c'est vraiment une circonstance aggravante puisque normalement, le parent, il est censé protéger son enfant.
Mais j'avais une question, si quelqu'un vient vous voir et lui dit qu'il a des violences sexuelles, etc., comment on fait pour prouver, parce qu'il n'y a que la parole de l'enfant ?
Exactement, c'est la grande difficulté actuellement, notamment sur les violences sexuelles. Vous avez seulement, en fait, il y a 165 000 enfants par an qui sont victimes de maltraitance sexuelle. En France. Et en fait, vous allez avoir environ, d'accord, 10% où il va y avoir en fait une action judiciaire et 2% seulement où il y aura une sanction. On a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire parce qu'en effet, comme tu le dis, et c'est bien de le dire, c'est la parole de l'enfant contre la parole de l'adulte et que pendant très longtemps, les enfants en fait n'ont pas été entendus. Ils n'étaient pas considérés en fait comme des individus à part entière avec des droits. C'est seulement depuis très récemment avec la Convention internationale des droits de l'enfant depuis 1989, que dans le coup, on a pu mettre dans notre constitution des lois qui protègent spécifiquement les enfants.
Peux-tu être maltraitant, c'est-à-dire maltraiter des gens sans t'en rendre compte?
Ça va pas, non? Non, je pense pas, non.
Oui.
Enfin, ça se voit quand tu le fais. Fin...
Moi?
Mm-hmm. Ah non.
Non.
Non, non.
La trop.
Oui, on peut être maltraitant sans s'en rendre compte. Après, il faut être dans l'empathie, il faut essayer d'écouter les autres. On peut être maltraitant sans s'en rendre compte parce qu'on va des fois dire quelque chose et on ne va pas se rendre compte de l'impact qu'on va dire. Donc, on peut très bien dire à quelqu'un, voilà, de dire un mot déplacé et on va lui faire du mal. Alors après, la maltraitance, c'est aussi sur du long terme. Donc voilà, on peut dire « tu m'as maltraité » à un moment donné. C'est pas pour autant qu'on est sur cette maltraitance de mise en danger et voilà.
Moi, personnellement, non. Je maltraite personne. Donc, peut-être que mes amis ont fait des petites rigolades et tout, mais sinon, je maltraite personne.
Alors là, je ne sais pas.
Peut-être si on a des propos, des paroles, des gestes qui pourraient être mal interprétés pour un enfant qui est déjà en mal-être et qui va prendre cette information comme quelque chose de violent pour lui. Oui, ça pourrait. Mais j'espère que je ne suis pas maltraitante.
Peut-être, oui.
Alors oui, on peut l'être. Maltraiter, c'est... Pour certains, c'est juste se moquer de quelqu'un sans forcément s'en rendre compte. Et ce quelqu'un, ça peut lui faire très mal.
Oui, ça peut arriver relativement aisément, ne serait-ce que tout simplement par les mots. En fait, on peut blesser quelqu'un sans le vouloir parce qu'on a dit quelque chose qu'on pensait pas ou qu'on l'a dit, mais qui a été mal interprété. Donc, on peut vraiment être maltraitant sans le vouloir, oui.
À partir de quel moment la rigolade devient de la maltraitance?
Bah, quand ça ne fait plus rire l'autre. À partir du moment où la victime n'est plus d'accord.
À partir du moment où on peut rigoler, il n'y a pas de problème, mais quand ça devient toujours la même blague, en fait, vous comprenez?
Oui, au bout d'un moment, c'est plus drôle.
Voilà, au bout d'un moment, c'est lourd. Mm-hmm. C'est plus drôle et ça devient du harcèlement même.
Oui.
Quand une personne vous dit d'arrêter, par exemple, de la chahuter et qu'on continue, non, là, ça devient de la maltraitance?
À partir du moment où c'est plus de la rigolade. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un dit arrête, là, ça m'énerve, tu commences à m'énerver ou je supporte plus, ou moi, ça me fait pas rire, on est sur une forme de maltraitance.
C'est quand ça part aux insultes. Après, il y a aussi les tapes amicales. Ça peut partir trop loin et ça peut partir aussi en bagarre. Quand on peut frapper quelqu'un tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps et tout le temps. Quand c'est sur longue durée.
C'est à partir du moment en fait où la personne qui est maltraitée rigole pas, quoi. C'est quand ça atteint à son intégrité physique, morale ou sociale.
Je pense que c'est à partir du moment où justement ce n'est plus considéré comme drôle. Genre une blague qui est usante, qui est faite de manière répétée, constante, à un moment c'est plus drôle, c'est plus du comique de répétition et là ça commence à agir de manière négative et je pense que c'est là que ça commence à devenir de la maltraitance.
De quelle façon peux-tu être maltraité?
Moi, en tant qu'adulte ou en tant qu'enfant?
Enfin, en général.
En tant qu'enfant, je ne l'ai pas vécu au sein de ma famille, j'ai vécu à l'école aussi, parce que j'étais un petit peu ronde, et du coup, tu vois, les bouboules, les machins, les trucs, c'est pas sympa quand on a 15 ans, quoi.
Si on ne me respecte pas, si on me fait du mal, physiquement, moralement?
De différentes manières, physiquement, moralement, mentalement. Ça peut être, ça peut être, on peut pas parler de harcèlement, mais la maltraitance morale, ça existe.
On est maltraitant si on frappe, si on dit des méchancetés, si à partir du moment, là encore, où on rigole pas. Et puis de toute façon, en général, taper, c'est loin d'être drôle. Donc là, on est déjà sur de la maltraitance. Même faire des chatouilles, ça peut être maltraitant. Hein, on peut même, dans le sens où à partir du moment où on ne s'arrête pas, ça devient même une forme de torture. Donc du coup, tout peut être amené à de la maltraitance dans la mesure où c'est amplifié et où c'est plus sur un thème. Donc il y a malheureusement plein de formes de maltraitance.
Il y a plein de façons. On peut être tapé, on peut par exemple nous priver de nourriture, par exemple, être noyé psychologiquement, moralement. Et du coup,
Moi, maltraité, si un supérieur hiérarchique, si un professeur, si un parent me parle sur un ton injurieux, sur un ton agressif, je me sens à mon tour maltraité.
Peut-être maltraité physiquement, socialement et moralement. Donc voilà, il y a trois choses bien différentes à retenir.
Maltraité, il y a physiquement d'une part et mentalement d'autre part. Donc physiquement forcément par les coups, les blessures, les actes, les gestes, tout ça. Et mentalement par les mots et par ce qu'on peut voir, par ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut écouter. Et donc il y a différents aspects.
Est-ce que pour vous le harcèlement c'est de la maltraitance?
Qu'est-ce que vous en pensez vous?
Moi aussi. Hein. C'est pas le même mot, donc c'est que c'est pas la même chose.
Enfin, oui, merci.
Je pense que t'as raison. Heureusement, on a deux mots différents. Et puis c'était évoqué dans le micro-trottoir régulièrement. Les gens ont tendance en fait à se dire maltraités, alors qu'en fait ils sont victimes de faits de violence. La maltraitance, c'est quand même quelque chose de grave. C'est-à-dire que c'est disproportionné, démesuré par rapport à ce qu'un enfant peut avoir fait. Par exemple, un enfant qui fait une bêtise, il renverse son verre d'eau sur la table. Vous allez avoir des parents qui vont dire « Oh là là, mince, t'as renversé, tiens, essuie !» D'accord ? Donc ça, nickel, c'est très bien. Vous allez avoir le parent qui va dire « Mais n'importe quoi, qu'est-ce que t'es bête ? Pourquoi t'as fait ça ?» Voilà. Bon, ben là, on commence, vous voyez, à être dans un fait de violence parce qu'on ne considère pas l'enfant en fait dans ce qu'il est. Et puis, pour la maltraitance, on va prendre la tête de l'enfant et on va lui cogner la tête contre la table. Vous voyez la différence ?
Oui.
Donc ça, c'est de la maltraitance parce que c'est disproportionné, c'est démesuré. Et le harcèlement, en fait, vous voyez, ce sont tous ces petits faits de violence, là, dont on évoquait tout à l'heure sur l'exemple avant, et bien qui vont être répétés, qui peuvent prendre aussi plusieurs formes, violence morale, d'accord, ou sexuelle, et qui vont faire que, en effet, la personne, sa vie, en tout cas, va être vraiment très abîmée.
Oh, d'accord. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. On attend le groupe sur les droits des enfants, Gabriel, Colline et Jessica.
Ben, merci beaucoup à vous.
Son doigt de plage, c'est ce que ça fait?
Oui, ça fait une tempête de plage avec des sandales de neige.
Un homme électrique et sa guitare de Cro-Magnon, un cœur de météo pour une Miss Artichaut, une tapette à gaufre avec un pistolet à mouche, une bouche à moteur sur une oreille à vélo, un chanteur de piscine dans un vestiaire d'opérette, un camion en peluche sur un lapin poubelle, combien de chambres à laver pour une machine à coucher, un pronom fumé ou du saumon personnel. Mélangeons les mots composés, composons les mots mélangés. Mélangeons les mots composés, composons les mots mélangés. Une clé de taxi pour un chauffeur à molette, un tapis d'éclair dans une fermeture de bain, quelle table de mule pour une tête de ping-pong. Un crève la joie avec un rabat fin, un arbre à réaction sur un avion en fleurs, un serpent à grelots sous un bonnet à sonnette, tout de vache à point pour une coccinelle à lait, un appuyer ou un chausse-tête. Mélangeons les mots composés, composons les mots mélangés. Mélangeons les mots composés, composons les mots mélangés. Président de la mort avec un trompe la République, un serpent à main sous un essuie-plume, quel prof de poulet pour une frite de sport, un croissant de glace pour un pic la lune, un Bernard Madame avec un croque l'ermite, des lunettes de brouillon sur un cahier de soleil, Astérix le Romain ou César le Gaulois, un arc en œil dans un tapaciel. Mélangeons les mots composés, composons les mots mélangés. Mélangeons les mots composés, composons les mots mélangés. Un marin angora sur un chat d'eau douce, un mille prégis ou un préchapate, une robe de canard dans un froid de mariage, et l'homme des missiles avec un lance-caverne, la clé des cigarettes sous un porte-champ, quel gâteau de chien pour un temps d'anniversaire. Composons les mots mélangés. Mélangeons les mots composés. Composons les mots mélangés.
Bonjour à tous.
Nous allons nous présenter. Je m'appelle Jessica, moi Gabrielle
et moi Colline.
Nous allons vous parler des droits de l'enfant et comme dans toutes les grandes radios, nous nous retrouvons avec des experts dans ce domaine, Émilie Vallée et Nathalie Letor.
Bonjour Nathalie, bonjour Émilie, comment allez-vous ?
Bonjour, nous allons bien.
Ça va, merci.
Très bien, merci d'être venue aujourd'hui pour nous aider à répondre aux questions de notre quiz.
Pouvez-vous nous expliquer votre métier plus en détail, s'il vous plaît ?
Alors, moi, je suis animatrice de prévention des violences infantiles, ce qui veut dire que je vais dans les écoles, primaires, collèges, lycées et bientôt maternelles pour faire de la prévention contre la violence. On va aborder également en CP plutôt les droits de l'enfant. Au CM2, on va accentuer sur les maltraitances sexuelles. Et puis, au lycée, on va plutôt parler de l'estime de soi. Et là, très prochainement en maternelle, on va faire une prévention adaptée, évidemment, aux enfants pour qu'ils connaissent leur corps et le respect de celui-ci.
D'accord. D'accord, merci beaucoup pour cette explication. Donc, si vous êtes prête, on va commencer le quiz avec nos invités. Jonathan, créateur et bénévole d'une association écologique et avec son vice-président, et Madame Lebert, professeure d'histoire au Collège des Sept Épis.
Je vais commencer à vous expliquer les règles du quiz. Alors, lors du premier tour, il y a 4 questions et chaque bonne réponse vaudra 1 point. Lors du second tour, il y a également 4 questions et chaque bonne réponse vaudra 2 points. La première personne qui appuiera sur le buzzer prendra la parole en premier. Avez-vous des questions ?
Je crois que c'est bon.
Non, c'est bon.
Très bien, donc commençons. Alors, première question de la première manche. À partir de quel âge un enfant peut choisir sa religion ?
Moi, je pense qu'à partir du moment où il est capable de penser, de poser des questions, il peut faire des choix, soit les mêmes que ses parents, soit s'en éloigner petit à petit. Je pense pas qu'il y ait un âge légal.
D'accord.
D'accord.
Et vous, Jonathan ?
J'en ai aucune idée, mais je pense que, voilà, je suis un peu du même avis de Madame Levert. Je pense que c'est dès que l'enfant est capable de penser et d'avoir une opinion, je pense qu'il peut choisir sa religion lui-même.
D'accord. Merci beaucoup. Seconde question. Est-ce que dans tous les pays, l'école est obligatoire et est-ce que cette règle est respectée ? Pardon, excusez-moi. Est-ce que dans tous les pays, l'école est obligatoire et est-ce que cette règle est-elle respectée ?
Ah bah...
dans tous les pays, je ne pense pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de pays où l'éducation manque. Il y a beaucoup d'enfants dans le monde qui n'ont pas d'éducation, qui ne vont pas à l'école.
Surtout les filles.
Je ne sais pas. Mais oui, ça devrait en tout cas être obligatoire dans tous les pays du monde.
Qu'est-ce que vous en pensez, Émilie ?
Eh ben moi, j'en pense qu'en effet, tous les enfants vont pas à l'école et que c'est pas obligatoire dans tous les pays. Il y a quand même 89% des enfants du monde qui vont à l'école. Voilà. Mmh. Et il y a 61 millions des enfants qui en sont privés. Ah. Donc en effet, comme le disait Madame Lebert, beaucoup de filles ne vont pas à l'école. Et souvent, en fait, dans les pays en guerre et en conflit, les écoles sont fermées.
Et il y a des raisons pour que les filles n'y soient pas autorisées ?
Le dernier pays qui recommence à fermer les écoles aux filles, c'est l'Afghanistan. C'est un pays où les gens qui ont pris le pouvoir pensent qu'une fille qui pense, c'est un danger.
Ah oui.
Et que moins une fille pense, mieux elle obéira. D'accord. Donc c'est à vous, d'accord, les filles, de faire changer ça.
Oui, d'accord, merci. Question numéro 3. À partir de combien de coups un enfant peut porter plainte ou du moins essayer ?
Du premier. Il n'y a pas de coups à avoir pour pouvoir... pour pouvoir dire que c'est de la violence, il faut dès que le premier coup que l'enfant réagisse en parlant à des adultes, à des responsables, etc.
D'accord, merci beaucoup.
Alors moi, à mon sens, il n'y a pas un nombre de coups à respecter avant de porter plainte. Il faut savoir qu'un enfant lui-même peut aller porter plainte, même si c'est pas simple, mais il peut le faire. Il peut en effet se faire accompagner d'une personne ressource de confiance et qui l'aidera dans ses démarches. Et il peut aussi et surtout appeler le 119. Donc le 119, pour rappel, c'est le numéro du service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger. Et il est bon de rappeler quand même que c'est un numéro qu'on appelle invisible. Donc ça veut dire que si vous appelez le 119, ça n'apparaîtra absolument nulle part sur le relevé téléphonique ou autre. Personne ne saura que vous avez appelé le 119. Personne.
D'accord, merci beaucoup. Bah, c'est très bon à savoir, merci beaucoup pour les enfants victimes de cela. Quatrième et dernière question de la première manche. Est-ce qu'un parent qui maltraite son enfant de 5 ans aura la même peine qu'un parent qui maltraite son enfant de 15 ans ?
Bah, on a eu la réponse tout à l'heure, hein. Ça dépend de la personne qui fait la maltraitance, ça dépend de l'enfant, quel lien il a avec la personne qui lui fait cette violence. Donc je pense que oui, ça sera pas la même peine que suivant l'âge de l'enfant.
D'accord. Et Nathalie, qu'en pensez-vous ?
En effet, donc, comme je le disais tout à l'heure, en effet, un enfant donc, de moins de 15 ans, il va être de toute façon protégé plus spécifiquement. Et c'est pour ça que les peines, ce que j'évoquais tout à l'heure, en fait, sont différentes en fonction de l'âge de l'enfant. Pourquoi, à votre avis ? Bah oui, voilà, mais c'est justement c'est pour que les auditeurs ils puissent réfléchir aussi à ça. C'est qu'en effet, on considère qu'en dessous de 15 ans, en fait, un enfant est considéré comme fragile et donc dépendant des adultes qui, je rappelle, ont la responsabilité de protéger les enfants contre toute forme de violence.
Oui. D'accord.
Donc, pour résumer, de 0 à 15 ans, les peines encourues sont les mêmes, d'accord ? En revanche, les sanctions de l'enfant mineur après 15 ans, elles sont un petit peu réduites.
D'accord. Merci beaucoup. On va donc passer à la deuxième manche. Question numéro 1. Est-ce qu'un enfant de 15 ans qui harcèle quelqu'un aura la même peine qu'un majeur ?
Normalement, dans les règles de la justice française, les mineurs et les majeurs ne peuvent pas être condamnés aux mêmes peines.
D'accord. Qu'en pensez-vous, Émilie ou Nathalie ?
Là, ouais, vas-y.
Ben, j'en pense que, en effet, donc pour les mineurs, ça va de 6 mois de prison à 18 mois de prison, en gros. Une amende de 7500 à 75 000 euros d'amende en fonction de la gravité des faits. Et pour un adulte, la prison, donc, ça va de 1 à 3 ans et entre 15 et 45 000 euros d'amende.
C'est en fonction, en fait, s'il y a des circonstances aggravantes ou pas. Donc ça, c'est pareil, c'est des termes légaux, mais qui sont importants à prendre en compte.
J'ai juste une question, pas par rapport au quiz, mais est-ce qu'un un majeur qui ne gagne pas sa vie, qui vit encore chez ses parents, ça devra être lui qui payera son amende, ou ce sera ses parents ?
Bah, s'il est majeur, c'est à lui de payer.
D'accord.
Et majeur, à partir de quel âge ?
18 ans.
Merci.
Question numéro 2. Est-ce qu'une personne ayant dit oui pour un rapport sexuel peut changer d'avis et jusqu'à quel moment ?
Bien sûr, il peut changer d'avis jusqu'à la dernière seconde. S'il dit oui, ou si il ou elle dit oui jusqu'au bout et qu'à la dernière seconde il dit non, je veux pas, c'est non. Et on va pas plus loin.
C'est ça. Quand vous avez. Moi, ma réponse, elle est évidemment. Évidemment. On peut changer d'avis à n'importe quel moment. Ça s'appelle le consentement, en fait. Les deux parties doivent être consentantes, c'est-à-dire d'accord avec la personne. Voilà. Et donc, ils peuvent. Et si on n'écoute pas le nom de la personne, alors c'est une agression sexuelle et c'est puni par la loi.
Oui.
Il y a une petite vidéo sur YouTube que vous pouvez tous retrouver sur le consentement, qui s'appelle la tasse de thé, qui explique très très bien ce qu'est le consentement. Et qui explique aussi que voilà, peu importe au moment où vous en êtes dans la relation qui s'apprêtait à se faire, on peut dire non, non et non.
Qu'on soit une fille ou un garçon.
Oui. Oui. Est-ce que du coup cela est considéré comme un viol si on n'écoute pas le nom de son partenaire ?
À ton avis ?
Durant l'acte, bien sûr.
Oui, mais à ton avis du coup ?
Pour moi, à partir du moment où la personne n'est plus consentante, oui.
Tout à fait. D'accord. Exactement.
Passons à la question 3. Est-ce qu'une fille mineure peut avorter aussi facilement qu'une majeure ?
Alors, aussi...
Attends. Enzo ?
Je pense, mais sous l'autorité du coup du responsable légal, je pense. Voilà.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas aussi simple parce qu'en effet, être mineur, c'est quand même pas la même chose que d'être majeur. Il faut normalement être soutenu par un responsable légal, donc de base, ton papa ou ta maman. En revanche, les papas ou les mamans, ils sont pas toujours là ou ils sont ils sont pas d'accord. Mais mineur ou pas, c'est votre corps et c'est vous qui décidez. La seule différence, ça va être quand même de se faire accompagner par une personne ressource majeure. Ça, c'est obligatoire. Et mais c'est... pas forcément le papa ou la maman.
Et c'est obligatoire qu'elle soit de la famille ?
Non, okay. Peu importe.
D'accord.
Mais majeure.
D'accord. Donc, dernière question de la dernière manche. Qu'est-ce qu'il permet d'appliquer les droits de l'enfant ?
C'est pour moi. Je pense que la Convention des droits de l'enfant, c'est le texte de référence. Celui auquel on se réfère chaque fois qu'un droit de l'enfant n'est pas respecté.
Tout à fait. Donc c'est en effet la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été signée le 20 novembre 1989 qui permet d'appliquer aux enfants tous leurs droits. Et c'est pour ça aussi qu'on fait de la prévention dans les écoles pour expliquer aux enfants qu'ils ont des droits et qu'ils doivent être respectés.
Eh bien, merci beaucoup pour votre participation, Jonathan et Madame Lebert. Donc, le vainqueur, il n'y en a pas.
Moi, je crois que j'ai gagné.
Ex-écho. Donc, il y a égalité. Je vous remercie beaucoup, Nathalie et Émilie. Maintenant, si cela ne vous dérange pas, nous allons lancer le micro-trottoir que nous avons fait. Voilà.
Merci.
Merci à vous.
Salut. Donc, à quel moment, pour toi, un jeune devient adulte ?
Quand il a plus de 18 ans ou plus.
À partir de l'âge de 18, 20, par là.
Moi, je dirais vers 14 ans.
Vers 18 ans.
20 ans.
Quand il est... Enfin, c'est la maturité.
Donc, comment ça ?
C'est quand il a fait sa crise d'adolescence, tout ça.
À partir de 18 ans et quand il devient mature.
Dès qu'il rentre au collège. Parce qu'il a ses propres responsabilités. Enfin, voilà.
Donc pour toi, là, actuellement, tu es adulte.
Non, mais il y a plus de responsabilités que la primaire.
Est-ce que pour toi, l'âge signifie la maturité ?
Non.
Tu peux justifier, s'il te plaît ?
Je sais pas, quand t'as 10 ans, tu peux être très mature, comme il y en a... Ils sont pas matures, mais...
Un peu, oui. Parce que certaines personnes de certains âges ne sont pas du tout matures.
Non.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a des gens, ils ont 15, 16 ou 17 et ils sont pas matures. Pas trop.
Salut. Donc, selon toi, à quel moment commence la maltraitance des enfants ?
Je pense vers 10 ans, 9 ans.
Quand je dis commencer, c'est à partir de combien de coups enfin.
Quand on le frappe tous les jours, c'est de la maltraitance.
D'accord, merci.
Quand tu te fais frapper tous les jours.
D'accord.
Quand on commence à insulter l'enfant, à lui donner des gifles ou, je sais pas, le taper avec des ceintures ou des chaises.
C'est adulte.
À partir du moment où leurs parents commencent à les frapper ou à les insulter.
Quotidiennement ou juste un jour ?
Quotidiennement, même si un jour c'est mal.
Quand tu le tapes.
Une seule fois ? Donc si un enfant se fait... Par exemple, si je suis mère et que je tape comme ça ma fille une seule fois parce qu'elle a fait une énorme bêtise, est-ce que c'est je la maltraite ?
Oui.
Bonjour à vous, jeunes gens. Comment allez-vous ?
On va bien.
Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
Voilà. Alors vous allez nous parler de votre caisse à outils à réflexion, je crois.
Ouais.
C'est ça, hein ?
Exactement.
Et ben voilà, commençons par ça. Bonjour Manon.
Bonjour les gens. Savez-vous que Michael Jackson n'est pas mort ?
Mais non, c'est pas possible.
Mais si, c'est vrai, je te jure, je l'ai vu sur Twitter. Sur la vidéo après l'enterrement, les personnes l'ont déterré et Michael Jackson a bougé.
Mais n'importe quoi !
Mais c'est une fake news.
C'est quoi une fake news ?
Une fake news, c'est une fausse information.
Mais comment on fait pour savoir si c'est faux ?
Pour savoir si une information est fausse, il faut vérifier qui est à l'origine. Si c'est un journaliste, un scientifique, quelqu'un qui s'y connaît. Ou si c'est un influenceur qui, par exemple, parle du nucléaire. Là, il faut se poser des questions.
Mais sur la vidéo qui tourne où les chats sont des aliens, ça a l'air vrai et sérieux.
Oui, mais c'est fait exprès pour manipuler les gens. Mais si on regarde qui a fabriqué cette vidéo, ce sont des élèves de lycée pour montrer qu'on peut facilement faire croire n'importe quoi.
Voilà, ça c'est une fake news.
Ah d'accord, je me coucherai même en bête ce soir.
Donc maintenant nous allons passer à un petit quiz dans lequel on va raconter 6 infos
Trois d'entre elles sont fausses, trois d'entre elles sont vraies. Pour y jouer, c'est très simple. Vous prenez une feuille de papier, un stylo, et vous répondez par oui ou par non si c'est une info ou une intox. Première info, en Australie, des lampadaires de rue modifient les gènes des passants. Info ou intox? Donc, réponse. Une vidéo publiée sur Twitter le 11 novembre insinue que le gouvernement australien installerait des lampadaires dans le but de modifier les gènes des passants à cause du numéro L17-4 qui s'avère être en fait le niveau de puissance des lampadaires. C'était une intox. Deuxième info. Des images montrent une prison construite pour les non-vaccinés. Info ou intox? Réponse. Encore sur Twitter le 11 novembre, une vidéo qui montre une prison vue de plus de 150 000 fois s'avère être en fait un centre de rétention construite avant la découverte du Covid-19. C'est encore une intox. Cette intox vient encore du site France 24.
Troisième info. Un plombier découvre 600 000 dollars dans des toilettes d'une église à Houston. Info ou intox? Réponse. Un plombier fait une drôle de découverte pendant qu'il faisait des travaux dans des toilettes de l'église le 10-11. Des certaines enveloppes se trouvaient dans les murs des toilettes. 200 000 dollars en liquide et 400 000 dollars par chèque. C'est une vraie info. Cette info provient du site 20minutes.fr.
Quatrième info. Des parasites immortels trouvés dans le vaccin du Covid-19. Info ou intox? Réponse. Depuis octobre, sur des vidéos prétendant montrer des créatures vivantes dans les vaccins contre le Covid-19, certains d'entre elles affirment même que ces des créatures sont des parasites immortels nommés Hydra vulgari. Or, les vaccins ne contiennent pas de ces choses.
Eh bien, c'est une bonne nouvelle si ça ne contient pas de ces choses, alors. Nous voilà équipés, alors, pour décrypter un petit peu toutes ces infos. Merci à vous.
Au revoir.
Bonjour, bonjour, ici Sarah et ma coéquipière et meilleure amie Marie. Marie, bonjour à toi. Aurais-tu quelque chose à dire à nos auditeurs?
Bonjour à tous, comme l'a dit mon ami, je m'appelle Marie et ici on se retrouve ensemble maintenant. Ce n'est pas pour jouer aux billes, mais pour parler d'un sujet très intéressant, la solidarité. Et donc, qu'y a-t-il au programme, Sarah?
Alors, au programme, nous avons prévu un micro-trottoir avec des professeurs, la directrice de notre fabuleux collège et quelques élèves, bien sûr. Il y a peu de questions, mais beaucoup d'intervenants. Après cela, ce sera avec plaisir que nous vous présenterons une association de solidarité, l'association de Handichiens. Nous commençons dès à présent avec le micro-trottoir.
Personnes vulnérables.
Les personnes vulnérables, dans le sens les plus fragiles, oui. Dans la société ou...
Oui, partout.
Ça peut être les personnes sans-abri, par exemple, qui sont vulnérables, surtout en ce moment, comme il fait froid.
Pour moi, les personnes vulnérables sont les personnes handicapées ou qui ont des problèmes.
Les personnes vulnérables, ça peut être des adultes comme des enfants. Pour moi, c'est des personnes plutôt fragiles. Ça peut être social, ça peut être physique, ça peut être mental. Voilà.
Alors, les personnes vulnérables, ça peut être des personnes qui sont en difficulté, qui difficulté pour gérer, par exemple, la maison, la vie. Ça peut être des personnes sans abri. Ça peut être des personnes en situation de handicap. Voilà, donc les personnes qui doivent se débrouiller seules.
Les personnes qui sont en détresse financière.
Les chômeurs ou alors ceux qui sont pauvres ou voilà.
Ok, et d'après vous, qu'est-ce que la solidarité?
La solidarité, ça serait le fait de travailler collectivement dans l'intérêt de tous.
S'entraider, se soutenir entre nous.
La solidarité, c'est venir en aide aux autres, qu'on ait un problème ou pas, c'est vraiment venir aider son prochain, son camarade.
La solidarité, c'est donc... C'est reconnaître connaître les problèmes de chacun et essayer de les aider.
D'accord. Et comment agissez-vous pour être solidaire dans la vie de tous les jours?
Ça peut passer peut-être par les gestes simples écologiques. Faire attention au tri, c'est une sorte de solidarité, je pense. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Aider les personnes qui en ont le besoin, dans la mesure du possible.
D'accord. Merci.
Bah, on s'aide mutuellement les uns les autres.
Pas faire différence entre les gens. Enfin, je sais pas.
On va maintenant vous présenter notre association préférée, Handichien, par Marie et moi-même. C'est parti!
Alors, pour commencer, Handichien est une association gratuite qui dresse des chiens pendant 22 mois dans le but d'aider les personnes en difficulté. Ils favorisent l'autonomie des personnes en situation de handicap, interviennent auprès des enfants, des adultes et des personnes âgées en maison de retraite en utilisant la médiation animale. Ils accompagnent des personnes épileptiques et peuvent assister et apaiser les victimes qui témoignent au tribunal.
Chaque chien est éduqué différemment, de façon à répondre à une attente particulière.
Oui, comme par exemple les chiens d'éveil, qui assistent des enfants atteints de troubles autistiques, de trisomie 21 ou encore d'enfants polyhandicapés. Ils vont permettre de stimuler, éveiller et d'apaiser leurs angoisses. Le chien va vraiment détraumatiser les moments difficiles. À l'école, dans la vie de tous les jours, le chien change le regard des enfants et des adultes sur le handicap.
En effet, ils sont vraiment incroyables. Il y a aussi les chiens d'assistance judiciaire qui aident les bénéficiaires à faire un témoignage lors d'un procès. Ils détendent la personne en faisant baisser leur rythme cardiaque et cela va augmenter l'ocytocine, qui est l'hormone du bonheur.
Pour poursuivre ce qu'elle a dit, je vais présenter les chiens d'assistance. Eux vont aider dans la vie de tous les jours les personnes handicapées. Par exemple, ils vont apporter un objet difficile à atteindre et être là pour eux pour qu'ils se sentent bien mentalement et même devenir un ami.
Il y a donc pas mal de chiens qui ont été dressés. Il y a d'ailleurs encore deux autres cas que nous n'avons pas vus, mais hélas, cela coûte 17 000 euros pour éduquer un chien. Cependant, un projet est prévu et je vais vous expliquer tout ça. Ils font une collecte pour gagner de l'argent en récupérant des bouchons de liège. Nous avons pour projet de mettre cette collecte en place au collège, car nous recevrons, je l'espère, la présidente d'Handichien pour notre future émission télé en mai 2022. À ce moment-là, on pourra faire un don avec ce que l'on aura récolté.
D'ailleurs, si vous voulez faire un don par internet ou voir plus en détail l'association, il suffit de taper dans la barre de recherche « Présentation de l'association d'Handichien ». Et il y aura plusieurs sites pour tout vous expliquer comme il faut ou voir des vidéos.
Avant que l'on se quitte, j'aimerais savoir ce que tu en penses, toi, Marie, des personnes vulnérables, de la solidarité.
Eh bien, comme on l'a vu ensemble, finalement, une personne vulnérable peut être un enfant, un adulte, n'importe qui de votre entourage, et peut-être un ami ou de la famille. On a aussi vu que la vulnérabilité peut être physique ou mentale.
Merci pour ces informations, nous allons nous quitter là-dessus. Au revoir à tous, bonne journée, sayonara en japonais. Nous accueillons maintenant un groupe de garçons, pour changer un peu, Théo, Sony, Mohamed et Arthur.
Bonjour, la citoyenneté, c'est aussi prendre soin du monde qui nous entoure, de la nature et de la faune et de la flore.
Nous allons vous expliquer la définition de la faune et la flore.
La faune est un milieu où plusieurs espèces vivent ensemble et la flore, c'est la même chose, mais avec les plantes.
Tiens Arthur, j'ai quelques questions pour toi. Est-ce que c'est important pour toi de préserver la faune et la flore?
Oui, je pense que c'est important de préserver la faune et la flore.
Est-ce que ça te dérangerait de cohabiter avec des animaux sauvages?
Ça dépend des espèces. Avoir un ours ou un écureuil dans son jardin, c'est pas la même.
S'il fallait retirer les animaux des endroits, qui vous dérange? Où mettrez-vous ces animaux?
Je ne sais pas, mais pas chez moi.
On accueille maintenant Jonathan Daslages et Enzo, son vice-président. Ils ont 17 ans, ils sont lycéens. Ils ont créé leur propre association qui s'appelle C3E. Bonjour Jonathan.
Bonjour. Pourquoi l'association s'appelle la C3E?
Alors C3E, c'est le sigle de Construisons ensemble une écologie engagée. Au tout début de l'association, c'était C3E pour le sigle de Conseil écologique des élèves de l'heure. Donc ça a changé parce qu'on s'est étendu un peu plus loin que l'heure.
Combien êtes-vous dans cette association?
Alors ce jour, on a à peu près 70 adhérents et on continue tous les jours de recruter des bénévoles. Vraiment, on recrute.
Pourquoi avez-vous créé cette association? Quelle a été votre envie?
Donc l'association, ça fait déjà plusieurs années que je réfléchis à la créer. Depuis que je suis en classe de 6e, et l'année dernière quand j'étais en classe de 1ère, je l'ai créée. Donc l'association a fêté ses 1 an il y a 2 jours. C'était le 15 décembre 2020.
On a vu sur votre compte Instagram que vous faisiez des clean walk. Voulez-vous nous expliquer ce que c'est?
Alors, clean walk, c'est très simple. Donc, c'est un terme anglais qui a été du coup franchisé. On est tous ensemble. Donc, tout le groupe d'adhérents, on est tous ensemble dans une zone dédiée et on ramasse les déchets de cette zone. D'ailleurs, ce lundi-là, on sera à Netreville pour ceux qui le veulent. Sur le parking d'Aldi, on fera un clean walk toute la journée.
Voilà, un peu d'auto-promo.
Vous organisez souvent des clean walks?
Alors environ, on essaye de le faire au moins une fois par mois, une grosse clean walk avec vraiment beaucoup de communication et d'organisation au moins une fois par mois. Et sinon, ça peut nous arriver occasionnellement d'en faire une toutes les deux semaines. Voilà.
Comment peut-on rejoindre votre association?
Alors pour rejoindre l'association, c'est très simple, on peut nous retrouver déjà sur les réseaux sociaux. Donc on a Instagram, c'est c3e-du-bas officiel. Sur Facebook, on a c3e.association. On peut aussi nous retrouver sur notre plateforme Hello Asso. Vous recherchez c3e dessus et vous allez trouver. Et donc pour nous rejoindre, pour adhérer, c'est 7 euros par an pour devenir membre de l'association. Et donc quand vous êtes membre, vous avez bien sûr le droit de vote à l'Assemblée Générale. Vous pouvez participer à toutes les réunions de l'association pour son fonctionnement et bien sûr participer à toutes les actions.
Est-ce que plus tard, vous voudriez faire un métier en rapport avec l'écologie?
Pas forcément en rapport avec l'écologie, mais s'engager pour l'écologie, oui. Être bénévole dans des associations, pourquoi pas. S'engager aussi, pourquoi pas politiquement, dans l'écologie, ça peut être très intéressant. Et en faire un métier, moi personnellement, pas trop. Moi, je suis aussi dans le domaine du sport, donc voilà. Et toi, Jonathan, tu peux rien
faire? Alors personnellement, j'en ferai pas mon métier, mais je sais que... pendant tout mon parcours professionnel, j'aurai à côté mon association et je pense que jamais je quitterai cette envie de poursuivre cette association, quoi.
Avez-vous d'autres projets de prévu?
Non, vas-y.
Alors d'autres projets de prévu, on a bien sûr outre les clean walk, on a énormément de projets qui sont prévus. Par exemple, on fait de la sensibilisation auprès des enfants dans les écoles primaires et maternelles, comme on l'a fait le 15 juin dernier. On aimerait par la suite, quand on aura les fonds nécessaires, pouvoir faire de la plantation d'arbres dans les communes, dans les endroits qui le nécessitent. Après, on a plein d'autres petits projets, voilà, qui vont se rajouter au fur et à mesure en plus de ces projets principaux, hein, si je peux dire, comme par exemple la vente de cendriers de poche pour éviter que les mégots se retrouvent par terre, etc. Plein de projets comme ça, aussi la revalorisation des déchets qu'on ramasse. Il y a plein de projets, voilà, autour de nos actions, autour de notre association.
Et on en profite justement de parler de ces actions lors de certains forums d'associations ou certains événements, comme par exemple le marché de Noël le 26 décembre à Évreux. On y sera.
Merci Jonathan et Enzo d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Et maintenant, on vous laisse avec Clara et Camille.
Bonjour, nous sommes Camille et Clara, des élèves de 4e. Nous allons parler du tri des déchets à la cantine de notre collège. Le tri des déchets a été mis en place par M. Villasec, un prof d'art plastique, qui pilotait le projet Sarah Accroche pour des élèves qui n'aimaient plus l'école, pour leur redonner confiance.
Il y avait plusieurs activités. Par exemple, le jardinage, la couture, dont le tri des déchets dans notre cantine, dirigé en priorité par des élèves du lycée. Le projet Sarah Accroche a été arrêté environ 2 ans à cause du Covid-19, mais le projet reprend cette année et d'ailleurs nous allons interviewer Marie-Ange Gillard, personnel de service de la cantine, mais tout de suite écoutons ce qu'en pensent les élèves.
Que pensez-vous du tri des déchets à la cantine?
Je pense que c'est une bonne initiative venant du collège qui aide les élèves à savoir trier leurs déchets.
Bah, c'est bien de trier des déchets à la cantine parce que ça permet de moins polluer et comme ça on peut réutiliser pour composter.
J'en pense que c'est plutôt pas mal parce que ça permet de pouvoir les recycler et de pouvoir tout faire pour que ça pollue pas la planète.
C'est très écologique, je pense que c'est très bien.
C'est bien, on peut apprendre à trier grâce à ça. On peut bien trier grâce aux explications.
Je trouve qu'il y a un très bon tri des déchets à la cantine.
Tu viens d'avoir ton plateau, tu n'as pas encore mangé. À la fin de ton repas, que penses-tu qu'il va rester sur ton plateau?
Les déchets de mon repas et ce que je n'ai pas mangé.
Il va rester les déchets alimentaires et les pots de bananes, etc.
Je sais pas, parce que ça dépendra si j'aime bien ce qu'il y a le plat ou pas. Mais je pense que normalement, il ne devrait rien rester parce que tout ce qu'on prend, on le finit en fait.
J'essaye de faire le moins de gaspillage.
Il va rester les déchets, ce qu'on n'a pas mangé.
Ça dépend des repas et de ce qu'on nous propose.
Pour améliorer le tri à la cantine, que ferais-tu?
Je préciserai les choses à mettre dans les différentes poubelles pour aider les autres à savoir quoi mettre.
Je rajouterai une case avec que les sauces, avec vinaigrette, ketchup, mayo et tout.
Le reportage, oui, ça peut toujours servir de faire un petit point de vue comme ça, extérieur.
Après que les élèves aient mis le reste de nourriture dans les bonnes poubelles, que faites-vous de ce reste de nourriture ?
Alors, les déchets compostables sont mis dans le bac à compost pour faire du compost. Et puis après, chaque sac est redirigé vers la poubelle adéquate, c'est-à-dire que les cartons, les plastiques, tout ça vont dans les poubelles jaunes et le reste dans les poubelles vertes.
Que pensez-vous du tri des déchets à la cantine ?
Ben c'est bien.
Quand vous épluchez les légumes ou les fruits, mettez-vous les épluchures dans le compost ?
Oui.
Que faites-vous du reste du pain ?
Alors, le reste du pain, pour le moment, il est jeté en poubelle. Mais à l'avenir, s'il y a les poules, par exemple, qui sont programmées pour je ne sais plus quelle date, enfin bref, quand il y aura les animaux, ce sera plus facile de leur donner des petites choses à manger.
Okay. Savez-vous combien de kilos de nourriture vous jetez par jour ?
Je ne sais pas, mais c'est lourd. On ne pèse pas les sacs, mais y a une sacrée quantité quand même.
Okay. Pourquoi triez-vous la nourriture ?
Bah justement, pour un effet écologique, en premier lieu, et ensuite pour sensibiliser aussi les élèves à cet acte de tri, quoi.
Si vous pouviez améliorer le tri à la cantine, que feriez-vous ?
Pour moi, c'est déjà un bon système qui est mis en place. Après, oui, peut-être sensibiliser plus ses élèves pour que ce soit plus sérieusement fait quelquefois.
Voilà, nous avons fini. Nous remercions Marie-Ange Gillard et certains élèves pour leur participation. Merci de nous avoir écoutés. Et maintenant, nous allons accueillir Arthur.
Le principe de ce JT est d'imaginer l'écologie et l'économie du futur. En aucun cas, ceci n'est vrai. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de JFN TV. Nous sommes le 18 décembre 2061. Au programme, le début des ressources artificielles. Le pouvoir d'achat qui baisse lentement avec la nouvelle monnaie mondiale, le dollar. Et enfin, l'Afrique qui revendique le droit d'exploiter ses ressources. Passons tout de suite à la première nouvelle scientifique. Le laboratoire Pfizer a reproduit des steaks avec des manipulations moléculaires. Le problème est que plus de 40 000 animaux ont été abattus pour reproduire les cellules musculaires pour former un seul steak. La révolte des végétariens. Les scientifiques leur répondent « Il faut savoir ce qu'ils veulent les véganes ». Le point positif est que reproduire les cellules d'un steak peut être automatisé. La nouvelle guerre monétaire a été gagnée par les États-Unis d'Amérique. Le monde entier fait face à une baisse drastique du pouvoir d'achat. Les convois de billets sont désormais interceptés par certains pays refusant de changer pour le célèbre dollar. Les produits sont petit à petit vidés par les Américains venant en France, en Espagne et en Allemagne pour récupérer des produits indisponibles chez eux. Imprimer autant de billets pour le monde entier consomme beaucoup de papier. Les agriculteurs cultivant les arbres disent que la plante se tarifie. La qualité du papier devient de plus en plus mauvaise. Les vieilles histoires d'imprimerie de billets clandestines resurgissent. La police affirme que la criminalité n'a jamais été aussi haute. Bref, passons au troisième sujet du jour. Les Africains décident d'exploiter leurs ressources eux-mêmes. En 3 mois, ils ont réuni plus de 250 millions de dollars. Ils décident de faire démocratiser leur ancienne monnaie. Les ressources les plus vendues sont le minerai de platine, représentant 54% des réserves mondiales, mais aussi les diamants, représentant 78% des réserves mondiales de diamants. De plus en plus d'entreprises rachètent les ressources, d'après un témoignage d'un chef d'entreprise forestière du Congo. De plus en plus d'acacias sont coupés. Le baobab est aussi très visé par les haches des bûcherons congolais. Plusieurs associations écologiques ont mis les bouchées doubles sur les différentes interventions. Le réchauffement climatique devient de plus en plus inquiétant. Les catastrophes naturelles se multiplient par rapport à 2051. En été, plus de 500 000 personnes hospitalisées pour cause d'insolation. Et on a atteint un pic à 45 degrés la semaine dernière. La chaleur se fait ressentir, la fonte des glaces aussi. Bref, c'est déjà la fin de ce JT du 18 décembre 2061. Bonne journée à tous.
Que feriez-vous pour lutter contre la maltraitance animale ?
Je deviendrai policière et j'emprisonnerai tous les gens qui maltraitent les animaux, et voilà.
Qu'il faudrait y avoir plus de surveillance envers les animaux.
On arrête de vendre des animaux comme s'ils ne seront pas maltraités.
J'empêcherai les gens de chasser dans les forêts qui sont protégées.
Je ferai plus d'SPA. Comme ça, les gens, quand ils veulent plus de leurs animaux, ils les mettent en SPA au lieu de les taper.
Sujet délicat. Déjà, il faudrait apprendre à aimer les animaux. Si on n'aime pas les gens, on ne peut pas aimer les animaux.
En adoptant de plus en plus et ne pas les abandonner.
Arrêter de les tuer.
Bonjour à tous et à vous toutes. Je m'appelle Tara, de la 4e C.
Moi, je m'appelle Gaëlle.
Bonjour, moi, je m'appelle Jalice.
Si j'avais une baguette magique, je voudrais que nous ne soucions plus de la couleur de peau. Ou plutôt de ce qu'il nous caractérise. Le réchauffement climatique est un point nord dans notre vie. Il faut à chaque fois réfléchir à des solutions contre la pollution, les animaux qui ne trouvent plus d'endroit pour vivre et la banquise qui est en train de fondre. À cause de la montée des eaux, des villes et des pays vont disparaître.
Nous aussi, nous avons des vœux. Moi, j'aimerais que la maltraitance, que ce soit enfantile ou animale, disparaisse.
Moi, j'aimerais qu'il n'y ait plus d'armes dans ce monde. Comme ça, il n'y aura plus d'attentats.
Que tout ce qui soit homophobie, racisme et harcèlement disparaisse également.
Qu'il n'y ait plus de pollution pour rendre le monde meilleur.
Je vous souhaite également un chocolat chaud devant la cheminée.
Je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite pour cette nouvelle année qui arrive.
Des chatouillis dans le cœur.
Je vous souhaite beaucoup de McDo.
Je vous souhaite un rayon de soleil à travers la vitre des longues journées d'hiver.
Je vous souhaite une année riche en surprises et en découvertes.
On vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année et surtout de bonnes vacances.